Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je pense que nous allons commencer maintenant la séance de l'après-midi. Et j'ai le plaisir cet après-midi d'accueillir John Lang, ici présent, alias Monsieur Pen of Chaos.
Youpi!
Voilà. Donc, qui, quelque part, représente pour moi vraiment le... Il est au confluent de toutes les formes des cultures populaires d'aujourd'hui, puisque John, à travers Nahuel Beuk, ça a d'abord été un jeu de rôle, donc sur Internet. Mais c'est aussi de la musique, un orchestre qui marche du tonnerre de Dieu partout où il passe.
En fait, à la base, c'était un feuilleton audio, donc un feuilleton radiophonique, mais diffusé gratuitement sur le jeu de rôle.
Voilà. Très bien, donc voilà. Et puis, ça s'est transformé en une BD qui a été l'un des phénomènes éditoriaux de ces dernières années. Et c'est aussi maintenant des romans, puisque le premier était sorti l'année dernière, La Couette de l'oubli, et vous pourrez découvrir demain chez le libraire le tout nouvel opus de John Lang, L'Orbe de Xaraz, oui, qui vient tout juste de sortir. Donc vraiment, nous sommes là au cœur de la culture populaire d'aujourd'hui, lue par les jeunes, aussi par les moins jeunes. Il faut bien le reconnaître.
Oui, car tu l'as lu.
Car je l'ai lu. Donc même les vieillards peuvent lire les aventures de Donjons de Nahuel Beuk. Donc j'ai le très grand plaisir de passer la parole à John.
Eh bien voilà. Alors il a tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Non, alors bon, je m'attendais à venir dans un salon très sérieux. Donc j'ai fabriqué ce petit sujet que j'avais décidé d'appeler « Implication inconsciente d'une littérature souvent dénigrée dans l'environnement narratif et fictionnel d'un concept moderne de fantasy transmédia ». Alors après, je me suis dit « Il va nous falloir de l'aspirine », donc je l'ai rebaptisé « Nahuel Beuk et la littérature populaire ». Voilà. Donc en fait, avec Jean-Luc, nous avons beaucoup de sujets de conversation. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi j'ai découvert avec Jean-Luc le terme littérature populaire, puisque pour moi, pendant de nombreuses années, il n'existait seulement que la littérature. Je ne savais pas qu'il y avait la littérature populaire et l'autre. Je ne sais toujours pas ce que c'est d'ailleurs, l'autre, mais je le découvrirai peut-être un jour. Voilà, c'est celle que je ne lis pas. Voilà, c'est tout ce que je savais. Donc alors aujourd'hui j'ai décidé de parler en fait de pourquoi, enfin comment j'ai fait ce que je fais actuellement et surtout comment la littérature populaire et l'art populaire en général a influencé tout ça. Alors donc si je me permets de parler de ça, c'est parce que actuellement je suis un auteur de science-fiction qui peut vivre d'écrire de la science-fiction, ce qui n'est plus super répandu il me semble, hein. Voilà, donc c'est une chance qui me permet de pouvoir parler de ce sujet. Et donc, alors, bon, pour Nahuel Beuk, alors je résume par rapport à ce que disait Jean-Luc. Donc, à la base, j'ai créé une petite saga, enfin, qui n'était pas une saga, des petits épisodes qui racontaient des aventures d'aventuriers crétins sur Internet dans mon site. Je pensais que ça n'allait intéresser personne parce que, dans ma tête, ça a été juste dédié à des gens qui avaient le même âge que moi, qui avaient fait du jeu de rôle, etc. Donc ça représentait à peu près 32 personnes. Et depuis, donc, il y a eu énormément de gens qui sont venus se greffer là-dessus, qui n'étaient pas du tout les gens pour qui j'avais écrit ça, mais qui ont trouvé chacun une part de quelque chose dedans, qui viennent de diverses influences. La science-fiction pour certains, donc une grosse part de fantasy quand même, les livres dont vous êtes le héros et la culture des livres dont vous êtes le héros, le jeu de rôle, le cinéma bis, hein, voilà, les jeux vidéo et le ciné burlesque, etc. Tout ce que j'ai mis dedans qui est ma culture essentiellement populaire que j'avais depuis longtemps. Alors, donc comment tout ça est né, avec zéro préméditation. Donc je suis passé du format internet peu à peu à la BD. Je ne voulais pas en faire, en fait. C'est une dessinatrice qui m'a dit « Ouais, ça serait super bien de faire de la BD ». Et donc je lui ai dit, ah non, ça ne va intéresser personne, comme à chaque fois. C'est exactement ce que je pense depuis le début et ça continue d'intéresser plein de gens. Donc je suis heureux de me tromper à chaque fois en fait. Donc elle a lancé le projet BD, etc. Donc c'était ma première publication. Et par la suite, ben après, j'ai travaillé sur différents formats. Donc la musique, alors on fait effectivement des concerts qui sont aussi basés sur nos univers, où là, ben, on essaye d'inculquer un peu enfin, aux jeunes ce que ça peut être que la musique traditionnelle, mais par le biais de textes humoristiques, d'aventures qui sont liées aux univers qu'ils connaissent, etc. Et nous, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gamins qui ne savaient pas du tout ce que c'était que la musique traditionnelle. On travaille quand même essentiellement sur du registre folk, avec des influences bretonnes, médiévales, irlandaises, etc. Puis un petit peu de traditionnel français un peu partout. Et on se retrouve justement avec ces jeunes qui ne connaissent pas du tout tous ces univers et qui viennent nous voir pour ça, qui viennent partager tout ça avec nous. Qui est très sympa. Et donc, alors, la littérature populaire, donc, tout ça vient, pour moi, je viens d'une famille qui avait vraiment zéro argent, autant d'un côté que de l'autre, mon père comme ma mère. Donc, je n'ai lu que ce qui est tombé devant mes yeux, parce que j'avais pas d'argent de poche jusqu'à ce que je travaille. Et dans des vieux cartons, je suis tombé sur un jour où alors, j'étais en classe, comme tous les élèves, à essayer de lire des trucs imbuvables. Donc j'ai oublié les noms, mais... Oh là là, ouais, alors, je sais plus. Enfin, en fait, je les ai lus tellement parce que j'avais vraiment pas envie. Un jour, j'ai ouvert un carton comme ça, dans un grenier. Il y a une lumière comme ça. Ah, avec une petite musique, genre... Bon. Et là, j'ouvre... Et je vois un bouquin qui s'appelait La jungle de pierre. C'était des bouquins de science-fiction. Ils étaient rangés comme ça dans un carton. Je ne sais même pas d'où ils sortaient. C'était de la SF de Fleuve Noir. Donc, toute une collection anticipation avec plein d'auteurs dont j'avais jamais entendu parler, etc. Et j'ai commencé à lire ces bouquins. Et moi, ça m'a vraiment déclenché l'envie de lire que je n'avais jamais eu avant. Ou un petit peu, si j'avais lu un peu Roald Dahl et des trucs comme ça, mais vraiment j'ai découvert un tas de choses avec ça que par la suite d'ailleurs j'ai essayé de dealer à mes camarades de classe dont la plupart d'ailleurs n'ont pas adhéré et qui eux n'ont pas lu d'ailleurs par la suite parce que ça les gonflait, la lecture les gonflait en général, mais bon ils sont restés de leur côté. Donc j'ai fait mon petit clan de potes, donc après on s'est lancé dans le jeu de rôle, etc. Et ça a donné toute ma culture qui arrive jusqu'à maintenant. Avec aussi, on parlait de la BD populaire ce matin, dans le sujet de ce matin. J'ai lu quasiment que les petits fascicules Mon Journal, qui traînaient aussi dans un carton avec des aventures palpitantes de faux Tarzan, etc. Je me souviens, des Zambla, il y avait des trucs comme ça. Hakim, ouais, Black le Rock, voilà, et des trucs Lug aussi, on en a parlé, j'avais oublié le nom d'ailleurs. Et au bout d'un moment, voilà, je me dis, bon, moi j'aime bien lire, alors donc je veux écrire. Et là, je commence à discuter avec des gens au début de l'internet, parce que je suis sur le net depuis 96, j'ai un site depuis 96 en fait, donc à l'époque. À l'époque, dans la francophonie, vous n'aviez pas grand-chose sur Internet en français. En 96, j'ai eu la chance d'avoir le net assez tôt parce que je bossais dans une boîte internationale qui avait Internet. Mais quand on arrivait à cette époque, en français, on cherchait des sujets. Et bon, évidemment, il n'y avait pas les boutiques qui vendaient des trucs. Mais on cherchait des sujets. Il n'y avait rien, quasiment rien. Enfin, il y avait des sujets, on va dire, scolaires, universitaires, etc. Mais il n'y avait pas de site sur le fantastique, par exemple. Il n'y avait quasiment rien sur la science-fiction en 96, en français. Hein, parce que du côté anglais, ça allait déjà, déjà quand même des choses. Et moi, ça m'a donné envie de partager toutes ces cultures. C'est comme ça que j'ai commencé. Et là, j'ai rencontré d'autres gens, évidemment, qui étaient baignés dans ces cultures. Et tout le monde me disait « Ha, 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 tu peux bien essayer d'écrire ». personne ne te publiera jamais. Voilà, parce qu'en France, c'est un petit peu difficile depuis toujours. Et d'ailleurs, ce qui était, j'en ai pas parlé, mais quand j'étais en cours de français, donc qu'on m'obligeait à lire ces fameux livres que je voulais pas lire, il y a notamment une prof qui, pendant des années, me disait « Ça n'est pas bien de lire de la science-fiction. Vous ne ferez jamais rien de votre vie. » Voilà. Alors, notamment avec des discours du genre « Bon, la science-fiction, c'est mal écrit. » Alors, bon, des fois, c'est vrai. Hein. Cela dit, des fois, c'est pas vrai du tout. Et ce qui n'est pas de la science-fiction peut aussi être affreusement mal écrit. Donc, je ne voyais pas l'intérêt. Alors, le pire, c'était « La science-fiction ne contient aucun message. » Alors, je sais pas pour tous les gens qui ont lu de la science-fiction, ça moi, je disais, mais vous en avez déjà lu de la science-fiction. Enfin, je veux dire, on lit un bouquin post-apocalyptique, il y a 50 critiques de la société dedans, comment on en est arrivé là, de l'écologie, etc. Enfin, pour moi, c'était bourré de messages. Pour elle, il y en avait pas. Et puis, des personnages qui n'ont pas d'épaisseur, enfin, moi, ils me sortaient des trucs. Alors, j'ai dit, tant pis. De toute façon, je ne lirai pas vos livres quand même. Donc, etc. Du coup, bah, je me suis dit, tant pis, je n'arriverai à rien, mais je vais quand même lire de la science-fiction populaire, et tant pis pour elle. Et tant pis pour moi, puisque je n'arriverai jamais à rien, parce qu'à l'époque, on croyait ce que disaient les profs quand même. Voilà, c'était le bon temps, ouais. Donc, tant pis. Alors, je fais ça quand même. Après, le jeu de rôle a commencé à faire son chemin en France. Donc, moi, j'ai pas mal adhéré au livre dont vous êtes le héros, qui est un mélange, effectivement, de livres et de jeux de rôle. Donc là, c'était super. En plus, je pouvais faire ça tout seul. Comme de toute façon, personne ne me comprenait, c'était pas grave. Jusqu'à ce que je rencontre d'autres gens qui étaient aussi tarés. Et donc, ça forge au fur et à mesure un espèce de courant de contre-culture où on se dit, bon, on est tout seul, etc. Mais c'est pas grave. Jusqu'au jour où on découvre sur Internet qu'on n'est pas tout seul du tout. Voilà. Et là, les gens font, oui, alors effectivement, tu peux faire des trucs, tu peux écrire, etc. Mais tu ne seras jamais publié puisque, voilà. Donc, j'ai décidé d'écrire un premier bouquin en me disant, si jamais j'arrive à publier ce bouquin, je continuerai à écrire, sinon tant pis. Donc ce qui a donné mon premier roman qui est du fantastique très obscur, on va dire, que Jean-Luc a lu aussi.
Le bouclier obscur chez Rivière Blanche, remarquable.
Voilà. Alors Rivière Blanche qui est une collection qui a repris le flambeau, si on peut dire, de Fleuve Noir Anticipation. Donc des gens très sympathiques. Et alors effectivement, mon bouquin n'était pas totalement écrit pour leur collection, mais ils ont adhéré à la démarche. Et puis moi, j'ai adhéré à la leur aussi. Et donc là, je me suis dit, ah, j'ai été publié. Donc, écrivons. Voilà. Ça a donné la suite. Bon, après, j'ai rencontré d'autres éditeurs, etc. Mais du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, voilà. Donc... À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, on peut arriver à quelque chose via la littérature populaire. Tout n'est pas perdu. Déjà, on peut faire lire des gens qui n'ont pas envie de lire. Donc, souvent des jeunes, parce que bon, les gens, s'il y a 50 ans, ils n'ont toujours pas envie de lire, tant pis pour eux. Hein. Enfin, je veux dire, on peut faire lire des gens, on peut donner des loisirs à des gens qui ne connaissent pas forcément. Notamment, moi, je parle de mon point de vue, je n'avais pas d'argent. Je trouvais quand même vachement le temps de m'occuper. Je ne regardais pas trop la télé, etc. En ce moment, je rencontre quand même beaucoup de jeunes dans le cadre de mes activités. Ces gens, ils n'aiment pas lire, tout comme moi quand j'avais leur âge, parce qu'ils n'ont pas forcément vu d'intérêt dans les bouquins qu'on leur proposait. Donc, je me suis dit, je vais continuer dans ce que j'ai commencé, en passant dans un format un petit peu plus littéraire, qui peut éventuellement amener les jeunes à lire. Bon, c'était vachement prétentieux de vouloir faire ça, mais en fait, ça marche. Donc, je suis assez content de ça, parce que j'ai rencontré, notamment il n'y a pas longtemps, des élèves dans un lycée de Bar-le-Duc. Là, j'ai rencontré 180 élèves dans la journée, et il y en a beaucoup, effectivement, dont c'était quasiment le premier livre qu'ils lisaient de leur plein gré et qui leur a donné envie de lire d'autres choses, puisque effectivement ils ont découvert que bon, c'est de la littérature populaire, les parents ils font ce qu'ils peuvent pour que leurs gamins lisent, et ils sont contents quand les gamins ont envie d'acheter un livre plutôt qu'un jeu de console, un ballon de foot ou etc. Non, j'avais dit que je disais pas de mal du foot. Trop tard. Voilà. Donc de ce point de vue, ben je pense continuer. Alors moi, ça m'a apporté énormément de choses, je trouve, toute la littérature populaire. Même, c'est vrai qu'avec le recul, quand je regarde dans ma bibliothèque, il y a beaucoup de choses que j'ai pas envie de relire, mais il y en a certaines qui ont laissé. Ça m'a aidé beaucoup, moi, sur tout ce qui est réflexion sociologique, etc. Parce que je trouve que ces types-là, qui avaient. Des fois, je suis même pas certain que les éditeurs aient lu les livres. Parce que c'est clair, quoi. Il y a des machins, c'est des ovnis complets. On trouve de tout dans cette collection-là. Je parle de Fleuve Noir Anticipation. Il y a des trucs, c'est hallucinant, c'est plein de critiques de la société dans tous les sens. Et c'est beaucoup plus. Beaucoup plus facile à un jeune de retrouver les critiques qu'à travers des phrases alambiquées où il y a des sous-sens qu'il faut comprendre et qu'on comprend que quand on a 30 ou 40 ans. Donc les profs, eux, ils avaient compris, c'était bien. Mais ils étaient en train de nous dire « Écoutez, regardez, lisez, machin. » Et franchement, on n'avait pas envie. Mais donc on peut se passer, à mon avis, une bonne partie de sa vie de ce genre de littérature pour apprendre des choses, pour apprendre à écrire, parce que en ce moment, si vous fréquentez Internet, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes sur Internet qui s'expriment de façon kikoulolesque, hein, pour ceux qui connaissent le terme, c'est-à-dire que en fait, ils ont tellement pas l'habitude de lire qu'ils ne prennent même pas la peine de faire des phrases, et c'est un petit peu malheureux. Pour ma part, moi, j'ai jamais tellement suivi les cours, mais je pense que le fait de lire beaucoup contribue pour pas mal de gens déjà à savoir écrire, parce que il y a quand même la mémoire visuelle qui fonctionne. Et depuis donc quelques années, j'ai commencé notamment avec Marie-Charlotte qui m'avait invité à parler à des jeunes à Bagneux, tu te souviens, voilà, où je leur ai expliqué que le fait de lire, même s'ils aiment pas le français, s'ils aiment pas se prendre la tête avec la conjugaison, l'orthographe, la grammaire, etc., ça fait en sorte que s'ils lisent même un livre par semaine ou deux livres par mois, au bout d'un moment, de toute façon, ils sauront mieux écrire que les gens qui ne lisent pas. C'est un effort passif, mais ça fonctionne. Ça a fonctionné pour moi, en tout cas. Et donc maintenant, j'essaye de faire en sorte d'écrire correctement. Mais voilà, donc cette espèce de cheminement que j'essaye d'amener aux jeunes. Alors récemment, j'ai sorti un jeu de rôle gratuit dans mon site qui reprend tous les fondements de ce que j'ai mis dans ma série depuis 2001, parce que j'ai commencé en 2001 les sottises audio. Et en fait, ça adhère pas mal. Et l'avantage, c'est encore une fois, ça fait lire. Bon, il y a des pages de documents. C'est toujours dans un ton humoristique. On n'est pas là pour se prendre la tête. Mais on lit, et l'avantage quand on fait du jeu de rôle, c'est qu'aussi on écrit, puisque au bout d'un moment, on va être obligé d'écrire du scénario, etc., de s'investir dans les personnages, et on finit invariablement par écrire soi-même les aventures, etc., les partager avec des gens. Ah, il y en a qui sont perdus là-bas. Non, mais venez vous installer, on est gentil.
Bienvenue.
Voilà, alors du coup, oui, c'est pas encore pareil, je sais plus ce que je disais. Si. Non, ouais, voilà. Je disais merci Marie-Charlotte, voilà. Non, mais. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de mon sujet, peut-être. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Sauf si. Hein, je fus rapide. J'aime pas trop parler de ma vie, en fait. Je vais finir par vous parler de la pêche au brochet ou des choses comme ça. Et
Tu nous as épargné le cinéma nanar, mais...
Oui, non, le cinéma bis, c'est autre chose. Alors, j'ai de dangereux... de dangereux complices qui sont dans l'assistance, que je ne tiens pas à dénoncer. Donc c'est plus ou moins un certain nombre de gens qui sont pétés de rire en ce moment même. Hein. Je ne donnerai pas leur nom. Non, le cinébi, ça porte beaucoup, parce que ne serait-ce que la grande question existentielle. Donc le cinébi, c'est nanar. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle les mauvais films sympathiques. C'est-à-dire des films qui sont réalisés avec une intention, non pas de nuire, mais de... On ne sait pas d'ailleurs quelle est l'intention. Mais quand on les regarde, on se dit « Ah ouais !» quand même. Et nous, on en a vu certains quand même qui piquent bien les yeux. Et moi, la grande question que j'ai depuis 10 ans, c'est comment des gens arrivent à convaincre quelqu'un de mettre de l'argent dans une production de ce type, alors qu'on sait bien que quand on voit le mal qu'on a à faire éditer un livre, le mal qu'on a à lancer un projet quelconque qui inclut plus ou moins des gens qui doivent financer, on se dit, mais c'était vraiment des époques de fous où on pouvait arriver et faire absolument n'importe quoi. Et moi, c'est la grande question que j'ai depuis toutes ces années où j'ai vu des films qui feraient vomir un bouc, je pense, on peut le dire. où effectivement, il y en a certains d'ailleurs. Bon, moi, j'aime bien les trucs drôles quand même. Et je pense que j'ai vu des films où j'ai 10 fois plus rigolé que dans un sketch comique qui était prévu pour être comique, alors que le film n'était pas comique du tout. Notamment, c'est un des problèmes que j'avais quand j'étais scolaire, c'est qu'on m'emmenait voir des pièces de théâtre, par exemple. La fois où j'ai le plus rigolé, c'est Antigone d'Anouilh. Je pense que quelque chose avait dû m'échapper dans le propos. Et ça, bon, ça contribue à ce petit décalage qui existait, voilà. Alors, effectivement, la prof m'a fait les gros yeux, mais bon, j'y peux rien, je suis mort de rire. C'est... Non, c'était pas du Corman, mais je pense qu'il y avait emmené des gamins de 13 ans voir une pièce moderne interprétée de façon dramatique. Il y avait un truc qui m'échappait comme totalement. Et alors, les gens qui étaient comme ça en train de faire. Et moi, j'étais par terre. Voilà. Donc, après, je me suis dit, je préfère faire des trucs rigolos. Et il s'avère que d'ailleurs, le fait de faire des choses drôles, par exemple, dans le ciné amateur, j'ai travaillé pas mal de temps avec des gens qui faisaient des courts-métrages, etc. On excuse beaucoup de choses quand on fait des trucs pour rigoler qui ne passent pas du tout quand on le fait sérieusement. Alors c'est tout l'intérêt de ces nanars, c'est que c'est des gens qui font ça sérieusement. Alors nous, quand on fait des conneries, ben c'est pas grave, hein, parce que à la base c'est pour rigoler. Et eux, eh ben ils font des films remplis de conneries mais sans vouloir rigoler. Donc c'est ça qui est le meilleur, franchement. Et voilà, nous organisons de ce que nous appelons des réunions de travail pour en parler. Et nous ne sommes pas forcément fiers, hein, mais ça, voilà, on peut en parler entre nous, au moins on est contents. Donc voilà, alors est-ce que vous avez des questions particulières sur...
C'est pas vraiment des questions ?
Non, ça peut être des messages d'insultes, des... Des invitations à boire des coups. Oui, oui, oui.
Vous avez posé un problème qui me passionne, c'est celui de comment faire lire. Et donc, c'est vraiment, c'est très, très important, mais je crois, en ayant observé un petit peu, je crois que comme chacun a des rêves différents, des histoires différentes, un niveau de lecture différent, qui n'est pas forcément en rapport avec son nombre d'années scolaires, en fait, la seule solution, à mon avis, c'est pas de dire qu'il y a une entrée qui est meilleure que toutes les autres, c'est de mettre un maximum de livres de toutes les sortes à la disposition de gens qui viennent et qui viennent pas forcément quelquefois pour lire. Il faut qu'il y ait des livres partout. Et ça, c'est moi, alors, parce qu'il y a un autre problème. Je suis pas de la même génération. Et je pense que, c'est donc une autre expérience, mais moi, mon problème et ma chance, c'est que j'avais deux parents. Donc, j'avais une mère qui me laissait tout lire. Donc, j'ai lu aussi bien du Giraudoux aux âges où vous dites que ça tombe des mains, et ça m'a passionnée, que du, que du Paul Féval, le Bossu, que les bonnes soirées auxquelles elle était abonnée. J'ai tout lu. Et j'avais l'impression que plus je lisais de choses différentes, plus j'avais envie de lire. Je crois qu'il faut... C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une bonne littérature et une mauvaise littérature.
Et il y a des gens qui...
dans les deux sens. Il y a des gens qui pensent que la bonne littérature, c'est de la mauvaise littérature. Et je pense qu'il faut tout lire. Et j'ai eu... Donc, mon père, lui, il pensait que quand on lisait, c'était du temps perdu. Alors, je ne sais pas si maintenant, c'est peut-être un peu moins avec toute l'importance du média. Mais il faut vraiment tout lire. Et à l'école, ben, ça a pris le relais. Parce qu'à l'école, j'ai eu aussi des profs qui nous lisaient La case de l'oncle Tom pendant qu'on faisait de la couture. Et ça m'a encore plus donné envie de lire. Voilà.
Ah ouais, mais ouais, enfin, des livres de toutes sortes au même endroit, ça s'appelle une bibliothèque, en fait.
Même pas.
Et en fait, c'est...
Ça fait
ça peut être à l'école aussi, ça devrait être.
Ouais, bah justement, ouais, le problème qu'on a dans les classes, c'est qu'on n'a pas le choix souvent. Enfin, moi, j'ai eu une fois une prof qui m'a donné une liste où il y avait des livres et j'ai pu en choisir un dedans. Bon, en même temps, la liste, c'était elle qui l'avait faite. Donc, j'ai eu quand même la chance de découvrir dans la liste « Je suis une légende ». Alors là, j'ai fait « Ah, tiens, ça a l'air bien ». Et mais bon, en général, on n'a pas le choix, quoi. Donc... Effectivement, il faudrait, c'est ce qu'on avait fait donc justement avec le programme à Bagneux, là, c'est expliquer aux jeunes qu'en allant dans une bibliothèque, ils peuvent prendre un livre, regarder, et puis ça leur plaît pas, ils le reposent, et puis ils en prennent un autre, jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils ont envie de lire. Mais actuellement, moi, ce que je rencontre, c'est des jeunes qui trouvent que la lecture, c'est chiant. Alors, le but, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils aient au moins envie de lire quelque chose. Et puis après, éventuellement, une fois qu'ils ont lu 3 ou 4 livres, que ce soit les miens ou n'importe lesquels, mais ils savent que ce n'est pas forcément chiant de lire un livre, en fait. Donc, ils vont éventuellement en chercher d'autres. Voire même souvent, d'ailleurs. Parce que le fait d'avoir passé le cap, en fait, ça aide, quoi. Ouais, non, mais tout à fait. Mais le fait d'avoir la démarche, au moins d'avoir lu et d'avoir apprécié un bouquin... C'est un grand pas en avant pour le fait de chercher autre chose. Parce que si on reste au constat de les livres, c'est chiant, on ne fait jamais. À mon avis, à un certain âge, on n'a plus envie de lire du tout parce qu'on décide que c'est un sujet qui ne nous intéresse pas, quoi. Mais c'est dommage. Et du coup, après, si on écrit mal et qu'on ne lit pas, ça ne veut pas s'arranger.
Hein. Je pense que
effectivement, moi de mon côté, je pense pas écrire des livres qui rendent intelligent, sinon ça se verrait sur mon visage. Mais au moins, au moins écrire des livres qui donnent envie d'être lus, quoi. Voilà. Enfin, ce que j'estime être la littérature populaire, c'est écrire des histoires, au moins, qui donnent envie d'être lues.
Manifestement, tu as. Est-ce que j'ai résumé tout le monde?
Vous pouvez en profiter pour poser des questions sur Nahuel Buck si vous avez envie, hein, aussi. Parce que, en fait, je mets beaucoup d'informations dans mon site, mais personne ne lit mon site. Non, c'est bien parce qu'il y a des gens qui me posent des questions hallucinantes depuis des années, dont les réponses sont dans la page d'accueil, souvent. Et en fait, ils me disent « je vais tout le temps lire tes news ». Mais ils me posent la question, par exemple, de « à quand un concert dans ma région ?» Je dis « c'était la semaine dernière ». Ah oui, mais j'ai pas vu. Alors je me demande ce qu'ils lisent en fait en venant sur la page.
Mais tu veux dire qu'il faut lire la page d'accueil d'un site?
Dès l'instant où c'est les news, oui, ça peut aider. Il peut y avoir des. Ouais, donc on joue à côté de Quimper, mais pas la semaine prochaine, mais le 13 février, je crois.
D'abord, je voudrais savoir pourquoi vous avez gardé le nom de Donjon de Nahuel Buck dans toutes les saisons?
Eh bien, ça c'est uniquement parce que pour que les gens, déjà qui viennent dans mon site, ils retrouvent la suite. Parce que comme je disais, la plupart des gens ne lisent pas ce que j'écris dans mon site. Donc il y a plein de gens qui ne savent pas encore que c'est moi qui fais toutes les voix dans les épisodes, alors que ça fait 10 ans quasiment que je le dis. Donc je me suis dit, si je commence à changer les titres de la série, je vais encore avoir des messages de gens qui me disent « Il y a quelqu'un qui a copié votre série !» Par exemple, hein, mais ça arrive. Hein. Donc j'ai, au moins en gardant Donjon de Nihilbuk, comme c'est un nom... Alors c'est un des trucs que j'avais fait en le faisant exprès, c'est de mettre un nom qui n'existe pas ailleurs. Parce que j'aurais pu dire le donjon de la chouette clouée, mais chouette ça existe déjà, et clouée aussi. Ça veut dire qu'en recherchant sur internet, les gens qui voulaient chercher ce que je fais, ils seraient tombés sur des sites de chouettes ou sur des sites de fabricants de clous, et qui n'est pas forcément très intéressant. Le nom je l'ai gardé parce que déjà il ne veut rien dire. Et puis en plus moi j'aime bien, voilà, il n'y a pas spécialement voilà, ah oui 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 c'est bon. Alors mon record pour le moment est à 6 fautes dans le mot Nihilbuk, et en plus le type il avait quand même trouvé la page, donc preuve que ça marche. Non, alors c'est le nom le moins commercial de tous les temps, parce que quand j'ai sorti ma première BD, il y avait des tas de parents qui venaient chercher la BD pour leurs enfants à la librairie ou enfin chez les marchands, et qui à chaque fois venaient avec un petit papier, ils annonnaient quelque chose, et il y en avait qui venaient sans papier, et ça c'était les pires. Ah, les sans ouais, je m'attendais à ce que Yves non, en fait ils venaient et là ils inventaient quelque chose, et l'avantage c'est que les libraires ont toujours retrouvé de quoi ils parlaient. Par exemple, le parent arrivait et disait « Nous voudrions acheter la tour de Glöffenspiel. » « Ah, le donjon de Nihilbuk, c'est par là-bas. »« Nous voulons la tourelle de Flakenbeck. » »« C'est par là-bas. » Voilà. Et en fait, alors il y a peut-être des gens qui voulaient acheter autre chose, mais qui du coup se sont retrouvés avec, avec mon machin. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé le nom uniquement.
Moi, pendant 6 mois, j'ai cru que c'était Donald Duck. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple à dire.
Ouais, c'est vrai.
Maintenant, une fois qu'on connaît le nom, c'est fini. Après, ouais, on le retient à vie.
Je vois pas ce qu'il foutrait dans un donjon, Donald, mais. Si, il a fait du donjon, Donald. Il est SM, je savais pas. Oh là là, j'ai raté cet épisode.
Du nom, justement,
de nulle part. En fait, c'est une consonance que j'aimais bien. J'ai dû entendre plus ou moins un truc qui ressemblait un jour quand j'avais 8 ans, Donald Duck peut-être. Et puis quand j'ai, en fait c'est venu, j'ai donné ce nom-là avant même de l'écrire, puisque j'ai fait mon premier épisode, donc là c'était du pur feuilleton audio, mais même pas écrit à l'avance. C'est-à-dire que j'avais mes personnages et j'ai écrit des petites répliques comme ça, puis au bout d'un moment je fais « Ah, j'écris pas de répliques », et j'ai commencé à faire l'épisode. Et au moment d'arriver au nom du donjon, je ne savais pas quoi dire. J'ai fait « Nous allons entrer dans le donjon de Nihilbuk. » Voilà, et c'est juste comme ça que c'est né. Après, j'ai noté le nom, je me suis dit « Faut que je trouve un moyen de l'écrire. » Et bon, après, évidemment, il commençait à avoir les personnages, etc. Mais il n'y a pas d'idée spéciale. Sauf le fait que du coup, je me suis dit « Ah bah c'est bien parce que ça n'existe pas comme mot, donc je ne serai pas gêné par les autres gens qui s'appellent Nihilbuk. » Enfin, sauf les gens qui prétendent que c'est eux qui ont écrit Nihilbuk, mais c'est une autre histoire.
Est-ce que vous pouvez donner des tuyaux aux jeunes sur le matériel,
je
logiciel?
Je ne fais pas dans la plomberie.
Bon, d'accord.
En fait, voilà. Alors, on parlait du fait que les gens lisent pas ce que j'écris dans mon site. En fait, ça fait 9 ans que j'ai une page qui explique comment je fais mes épisodes et ce que j'utilise comme matériel, et c'est dans le site. Voilà. Mais ils ont dû le lire parce que s'ils font une... Et notamment, il y a aussi d'excellentes rubriques qui sont faites par Knarf, qui est là aussi. Donc si vous avez des questions, vous avez peut-être vu dans mon site.
Knarf,
voilà.
Sur il est caché là-bas.
Voilà, caché là-bas. Voilà, alors Knarf, lui, est beaucoup plus didactique que moi parce que lui, il fait des vidéos, il fait des enregistrements où il explique aux gens comment faire de l'audio, etc. Donc c'est lui qui les fait. Voilà, il est bien, il est grand. Enfin, pas trop, mais... Il est grand de par le fait qu'il fait ça et que moi je ne l'ai jamais fait.
J'avais une question.
Est-ce que tu peux la faire avec la voix moins grave?
Non. J'avais une question. Pourquoi, diable, cet acharnement sur les petites personnes.
Hein? Alors, c'est amusant.
Non, parce que je me sens pas particulièrement concerné, mais quand même, je me dis, pour qu'on en arrive là, et puis que les gens se mettent à crier chaussettes partout, il faudrait d'ailleurs que t'expliques le concept de la chaussette. Je pense qu'il y a, un certain nombre de personnes qui seraient intéressées par le concept de la chaussette. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne comme ça sur les gens de petite taille ? D'ailleurs, j'ai une association, hein, pour ceux qui veulent adhérer, pour la protection et la représentativité des petites personnes. Donc, je vous invite à adhérer très rapidement. Mais s'il te plaît, explique-moi pourquoi tu t'acharnes autant sur les nains.
Alors, voilà, je voulais dire que je m'acharne en fait sur tout le monde. Et systématiquement, les gens qui se sentent visés viennent me casser les pieds. Alors, par exemple, dans ce qui concerne des jeunes filles blondes, par exemple, viennent me voir et me disent « Mais pourquoi tu t'acharnes sur l'elfe ?» Voilà. « Et pourquoi l'elfe est bête ?» Après, j'ai des filles avec des livres qui viennent me voir et me disent « C'est quand même bizarre que la magicienne soit stupide comme ça. » Et donc, les gens de petite taille viennent me dire « Qu'est-ce que t'as contre les nains ?» En fait, effectivement, je me suis un peu acharné sur tout le monde, mais j'espère l'avoir fait de façon sympathique.
J'ai qu'une chose à répondre à ça.
Non, je ne suis pas d'accord, monsieur, je ne suis pas d'accord.
Mais pour quand même, je voulais savoir, une dernière question, il est comment François Pérusse dans la vie ?
Il est petit. Non, je n'en sais rien. Mais nous avons failli le voir, souviens-toi, au Québec. Donc François Pérusse, pour ceux qui ne connaissent pas, et le type qui m'a inspiré pour faire du format audio, qui est donc un Québécois qui a lancé des petites, ce qu'il appelait des capsules radiophoniques, qui sont des petits enregistrements, soit de scènes de vie quotidiennes, soit des pastiches de séries, etc., qui en a fait un nombre incroyable. Hein, il en a fait plus de 1000, je pense, et qui sont passés à la fois en québécois sur des radios québécoises et en français sur des radios françaises. À la différence que lui, en fait, c'était du message radiophonique qui n'a jamais été des séries MP3, sauf qu'il a été tellement piraté que sa production s'est retrouvée de fait en fichier MP3 sur Internet qui était diffusé partout. Et donc la seule différence qu'il y a, c'est que moi, je les ai mis moi-même volontairement sur le site, puisque de toute façon, aucune radio n'en aurait jamais voulu. Et alors, depuis quelques années, il y a des radios qui passent du Nahelbeuk, mais attendez, c'est parce que c'est des sujets très pointus. Il y a une radio de militaires au Kosovo, par exemple, qui passe Nahelbeuk. Alors, je pense que c'est parce que peut-être qu'ils n'y ont rien trouvé d'autre à passer, mais les radios ne veulent pas de mes trucs, et donc tant mieux, voilà. Ça reste. Enfin, si beaucoup de radios gratuites, associatives, universitaires et tout ça passent du Nahelbeuk, mais les autres n'en veulent pas, et comme je n'ai pas envie de passer sur les autres, ça tombe bien.
Bien, je crois qu'il nous reste à remercier Monsieur Penofkeos pour cet exposé brillant.
J'en vois qu'ils ne sont pas endormis malgré la saucisse au chou. Je suis très content.
Et le Bordeaux. Merci, John.
Ouais, de rien.